Bonjour, ici François Nardou. Nous nous revoyons depuis avant Noël. Pour reprendre cette série d'émissions, aujourd'hui, un sujet m'est venu à l'esprit du fait des inondations et des crues de ce mois de février. Je vais essayer de vous parler des rivières et ruisseaux du pays de Montcuq, mais surtout de leur nom, ce qu'on appelle, c'est très savant, l'hydrotoponymie, les noms de lieux, les noms de rivières et de ruisseaux, qui sont une porte évocatrice qui nous ouvre sur la connaissance du passé de nos régions à travers ces noms de rivières, puisque on sait bien en toponymie qu'il y a deux noms de choses du paysage géographique qui ne varient guère au long des âges, ce sont les noms de cours d'eau et les noms de hauteurs, de montagnes, du relief. Nos rivières et ruisseaux du pays de Montcuq sont un sujet intéressant. Pour d'abord, un premier aspect de la chose, vous savez que dans le vocabulaire de l'économie touristique de nos régions, on appelle souvent le Quercy Blanc le pays des vallées. C'est du reste la traduction de son nom en latin au Moyen-Âge, Pagus Vallium, qui traduisait l'occitan Pais dels Vals, le pays des vallées. Vals s'écrit comme le nom d'Emmanuel Vals, c'est le même mot. Et ce qui dit vallée dit forcément cours d'eau qui ont creusé ces vallées, dit source, dit tracé, cours, dit pont, confluent, affluent. Un phénomène qui est curieux et intéressant en Quercy Blanc, on le note aussi bien dans la vallée de la Nègrevieille, au pied du versant sud de Montcuq, que dans la vallée de la Barguelonne, moins dans celle de la Séoune. C'est la variation du cours, du tracé de ces rivières. Et ce sont des variations qui sont plus souvent dues à l'intervention de l'homme qui a canalisé les ruisseaux pour des buts et des raisons économiques qu'à des phénomènes climatiques ou météorologiques. Alors notre pays est donc un pays de vallées, de sources et de rivières. Parmi celles-ci, il faut en distinguer quelques-unes pour en parler sans trop se noyer dans les détails. En allant du nord vers le sud, vous avez au nord la Séoune, en occitan la Séouno. Vous avez ensuite la Barguelonne, Petite Barguelonne, en occitan Bargaluno. Ensuite, vous avez au pied de Montcuq la Negovieglio, Negvieille. Puis, la vallée de Rouillac, Saint-Géniès, d'Escaillerac à Montlozin, jusqu'à Sainte-Juliette, le Tartuguier, un nom intéressant, très évocateur, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et ensuite, deux cours d'eau qui achève le pays de Montcuq vers le sud, le Lendou et son affluent principal, le Mardossou, et non pas Verdanzo. Alors, ce sont des noms qui, évidemment, n'ont de sens qu'en occitan, mais ça cache des pièges, des possibilités d'erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous prenez le nom de la Barguelonne, en occitan, Bargaluno. En bon occitan, un mot qui se termine en uno, c'est un diminutif. Ça pourrait vouloir dire la petite Bargalo. Ce qui n'a pas de sens. La Séouno, ce serait un peu la même chose. Vous avez ensuite le Mardossou, un autre plus simple, connu de tous les gens. Alors là, il n'y a pas besoin d'être méridional pour le savoir. Le nom de la Garonne. En occitan, c'est Garuno, qui vient d'une forme beaucoup plus ancienne, par le latin, mais c'est beaucoup plus vieux que le latin, que le gaulois et compagnie. C'était Garumna, qui est devenu Garunna, puis Garuno, etc. Alors ça pourrait vouloir dire la petite Garo, mais ce n'est pas ça du tout. On a, avec ce terme qui termine les noms de rivières, Uno, une forme occitane, mais qui recouvre une forme plus ancienne, qui était Onna, ou Unna, et qui veut dire tout simplement, ça c'est tous les linguistes sont d'accord là-dessus, l'eau qui court, c'est-à-dire le cours d'eau. Ça peut être, comme dans le cas de la Barguelonne, précédé d'une syllabe Al. Alors la syllabe al, elle est intéressante parce que c'est une des plus vieilles qui soit dans le... C'est un mot, au fond. C'est d'abord un mot. On le trouve, mais sous une autre forme. Il y a un R à la fin, dans le nom, un des noms de la Saône, affluent principal du Rhône. Alors la Saône, ça nous amènera vers la Séoune, vous allez comprendre pourquoi. La Saône, c'est très curieux. Elle avait un nom, Soukona ou Saoukona, qui était celui qu'elle prenait lorsque elle séparait le territoire de deux tribus celtiques, de deux tribus gauloises. Et là, elle s'appelait Soukona ou Saoukona. Lorsqu'elle traversait le territoire d'une tribu gauloise, elle devenait Arar, qui est deux fois Ar. Alors Ar ou Al, c'est parce qu'il y a une alternance entre R et L. Ar, ça veut dire le plein d'eau. Et quand c'est doublé, Ar-Ar ou Aral, peu importe, ça veut dire le très plein d'eau. Par contre, c'est la syllabe Al que l'on trouve dans le nom de Bargaluno. Là, c'est une correction, parce que j'avais tendance à prononcer Bargoluno. Et Patrick Ruams de la Boissière, la Bouissière à Saint-Pantaléon, Saint-Pantaliou en bon occitan, m'a dit dimanche, attention, monsieur Nardou, vous vous trompez, il faut prononcer Bargaluno. Et c'est intéressant, parce que ça nous rend la forme ancienne. Alors, cette Bargaluno, qui est la rivière qui passe au nord de la butte de Montcuq, qui va dans le sens nord-est-sud-ouest, des hauteurs dites la montagne, entre le Villesec et la Bastide de Marnac, vers la Garonne, tous nos ruisseaux, autre chose que j'oublie de vous dire, tous nos ruisseaux et rivières sont des affluents, directs ou indirects, de la moyenne Garonne. Le pays de Montcuq, le Quercy Blanc, tourne le dos au bassin hydrographique du Lot. Nous sommes donc tournés vers le sud-ouest de la Garonne, et tous nos ruisseaux descendent vers là. Alors notre Bargaluno, elle est composée donc de deux, déjà, je vous ai déjà donné le terme final, uno, qui veut dire la rivière, le cours d'eau. Al, le cours d'eau plein d'eau, ce qui est rarement le cas l'été. Vous pourrez remarquer que la Bargaluno l'été est souvent à sec. Et vous avez ensuite le terme qui arrive en premier dans notre énonciation, barga. Et c'est là que j'ai longtemps eu des problèmes. Ça vous montre d'abord déjà une chose. Vous voyez, le nom lui-même, ce qui porte le sens, c'est tout à fait à la fin du mot. Ona, uno. Précédé d'un terme qui veut dire al, qui veut dire plein d'eau. Donc la rivière pleine d'eau. Dans ces langues, dans cette forme-là, qui est une forme très ancienne, je vous le disais tout à l'heure, ça remonte, on pourrait presque dire à la préhistoire. Dans ces langues-là, le mot, le nom lui-même est tout à fait à la fin. Il est précédé de ce qu'on appellerait des termes qui le qualifient. Alors vous avez Ona, la rivière, Al-Ona, la rivière pleine d'eau, et Bargal-Ona. Et que veut dire Barga ? Ah, ça a été longtemps mon problème. J'avais d'abord pensé, je me suis référé à des bouquins, bon, il n'en manque pas, et les linguistes consultés, ils ne savaient pas trop que dire. Alors certains disaient, ça veut dire une rivière dont les berges sont à pic, en talus très raides, caillouteux et un lit encaissé. Bon, c'est le cas de la Bargaluno, au moins dans la traversée, je dirais, du pays de Montcuq, mais alors du pays central. La traversée à la hauteur de Saint-Donès-Montcuq, jusque même vers Sainte-Juliette. Après, c'est de moins en moins vrai. Ça voudrait dire que le nom de la Bargaluno a été donné aux origines par les habitants du pays qui est correspondant actuellement à la commune de Montcuq et Saint-Donès. Peut-être même Bagat. C'est le cas de la Garonne. Le nom de la Garonne, par exemple, il faut le savoir, c'est Ona, Unna la Garonne, Gar, alors le vieux terme Gar, qui veut dire, en fait, je vous le dis de suite sans chercher plus loin, c'est caillou, ça veut dire caillouteux, pierreux, rocheux. C'est le nom qui a été donné à la Garonne par les habitants des Pyrénées, et ça s'est étendu à toute la rivière. Et à Montcuq, ce serait donc ça. L'origine du nom de Bargaluno viendrait du nom qui lui a été donné par les lointains, primitifs, préhistoriques habitants de Montcuq et des environs. Une autre interprétation a été donnée, et c'est intéressant quand on sait où se trouve la source, puisque la source de la Bargaluno est au pied du versant sud-ouest du Pêche, que nous appelons la montagne, entre Villesec et la Bastide de Marnac. Alors, une autre interprétation donnée par les linguistes, c'était ce qu'on trouve dans l'allemand « Berg », la montagne. Alors, ce serait donc là un autre groupe, un autre genre, une autre famille de langues. Je vous donne pas le. On appelle ça les langues indo-européennes. Voilà, vous voyez un peu. Les langues de l'Atlantique jusqu'à l'Inde. Parler de l'Atlantique jusqu'à l'Inde. Sauf, le basque, le hongrois, le finnois, le géorgien. Bon. Et on aurait donc là un terme qui se retrouverait dans l'allemand Berg, la montagne. Ce serait donc la rivière Una, Uno, Al, pleine d'eau, de la montagne, née dans la montagne. C'était une interprétation possible. Et l'autre jour, il y a des idées qui vous viennent comme ça, parce que ça fait longtemps que ça me turlupine. Et l'autre jour, j'étais dans mes bouquins, je sortais de mes bouquins, et tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est vrai, mais au bon sang de chien, le latin. Parce qu'il y a une chose qui m'avait frappé, sur la carte IGN, tout n'y est pas. Sur la carte IGN, les ingénieurs topographiques ont donné les noms qu'ils avaient pu recueillir, mais il y en a beaucoup d'autres qu'ils ignoraient, parce que tout simplement, les gens du pays ne les connaissaient pas. Par contre, on les trouve, ces noms anciens, dans les actes des notaires de Montcuq d'Ancien Régime et du Moyen-Âge. C'est très intéressant. Et alors, je me dis, il y a quelque chose qui m'avait frappé. À Saint-Pantaléon, passe un ruisseau, qui est un affluent de la Bargaluno, et qu'on appelle, en occitan, le « Riu dels Fraises », le ruisseau d'Éphraine. Riu, c'est le ruisseau, ça vient du latin rius, ça a été très mal francisé en rieu, R-I-E-U, comme dans Del Rieu, Rieu Pérou, qu'il faudrait penser à Riu Peyrus, Del Rieu et compagnie. Alors, ce ruisseau des frênes, j'ai pensé à quelque chose. En latin, frêne, c'est fraxinus. Et alors là, ça m'est revenu. Bon, alors là, je vais essayer d'être facile. Nos langues actuelles en Europe, à travers l'occitan, le français, le latin, espagnol, italien, langue germanique, langue slave, albanais, grec et compagnie, ce sont des langues dites indo-européennes. Et elles dérivent d'un fond commun, elles sont communes avec les langues de l'Inde, de l'Iran, de l'Afghanistan. Elles dérivent d'un fond commun dans lequel, on le sait par le sanskrit de l'Inde ancienne, qui, sanskrit qui est toujours, c'est le latin liturgique des religions de l'Inde. En sanskrit, il y a un terme, bon, on l'écrit et on le transcrit par BH suivi de voyelle, plus, bon, plus exactement c'est BHARGA. Et ce terme bharga, puisque le H doit être expiré, désigne un arbre, pas n'importe quel arbre, des arbres de bord de rivière et de régions froides. Alors, d'après les chercheurs que j'ai consultés, ce terme, qui a donné ensuite le latin fraxinus, le frêne, parce que le BHA de l'indo-européen commun, du sanskrit, a donné le F en latin, a donné B en gaulois, ce terme va désigner, dans l'Europe ancienne, d'abord le bouleau, arbre des bords de rivière, dans une Europe sous climat boréal. Puis ensuite, réchauffement du climat, ce terme va désigner le frêne. Bon, en fait, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a eu différentes mutations de langue, des apports de population. Il ne faut pas attribuer à la préhistoire la pratique des langues indo-européennes. Bref, peu importe. Mais à travers ce nom d'arbre et ce nom de rivière, on retrouve ce qu'a été l'histoire des populations et du climat. Alors, vers 10 000 avant notre ère, un climat boréal, des bouleaux. Vers 8 000 avant notre ère, un climat beaucoup plus chaud et humide, climat atlantique, les frênes qui arrivent. Vers 5 000 avant notre ère, premiers agriculteurs du Quercy. Ils parlent des langues qui sont dites méditerranéennes. Les précédents, les chasseurs-cueilleurs de la fin de l'ère glaciaire, parlaient des langues, oh là, je deviens compliqué, des langues ouralo-altaïques. Bon, là, c'est les langues des éleveurs de rennes de nos jours en Sibérie. C'était les langues des peintres de Lascaux. Alors là, il faudrait que je me reprenne un peu. Donc, vers 10 000 avant notre ère, population dans nos régions, qui sont celles d'éleveurs de rennes, ce sont les peintres des grottes ornées, les derniers. Ensuite, avec le réchauffement du climat, les chasseurs-cueilleurs, qui sont peut-être encore des ouralo-altaïques, vers 5000 avant notre ère, des paysans qui parlent des langues méditerranéennes, et vers, dans les millénaires qui suivent, expansion des peuples indo-européens et des langues qu'ils parlent. Bon. Et alors, avec eux, arrive, donc, le paysage ne change pas, ou du moins il évolue en fonction du climat. Les choses qui marquent le paysage, c'est-à-dire les formes du relief, les noms de rivières, se maintiennent, et ils gardent leur qualificatif antérieur, rivière des bouleaux, devenue rivière des frênes. Et c'est le sens de Barguelonne, ce serait Ona, la rivière qui coule tout le temps, Al, pleine d'eau, de bordée de Barragos ou de Bargos, peu importe, les frênes. De Bragos, plutôt, les frênes. Ça me fait penser au titre du roman d'Alexandre Dumas, Le Vicomte de Bragelonne. C'est une forme francisée de Barguelonne, avec une alternance dans la position de la voyelle. Notre Barguelonne serait donc une rivière qui coule tout le temps, ce qui n'est plus le cas de nos jours, l'été elle est à sec, qui a été d'abord bordée de bouleaux, puis de frênes. Bon, tout son cours est marqué par l'apport d'eau d'affluents divers, qui sont notamment intéressants à la hauteur de Prégnac, entre Saint-Pantaléon et Saint-Donès, en face du vallon de Bagat. Mais là, je préfère m'arrêter 5 minutes.
Joli temps des cailloux blancs, du temps qui va, temps qui va. Rivière du temps, du joli temps du passé, quand le temps mettait dans son cœur le temps de nous aimer. Le temps mettait dans son cœur le temps de nous aimer. la rivière, rivière du temps, hier là.
Avant de passer à Brégnac et à sa toponymie particulièrement inquiétante du fait de la sacralité des lieux, il me faut quand même revenir un peu sur la Séoune. Alors donc cette Séoune a un nom curieux qui se retrouve dans tout le sud-ouest de la France. Elle ne porte pas d'article. On ne dit pas en bon occitan la Séouno, on dit tout simplement Séouno. Tout comme on dit Garouno et non pas la Garouno. Et ça me remet en tête une historiette que m'a racontée il n'y a pas longtemps Louis Vignol des grottes de Roland, dans le pays de Montcuq d'avant la guerre de 14. Les gens commettaient quelquefois un quiproquo en disant « la Séouno », ce qui veut dire « la sienne », pour dire « Séouno », la Séoune. D'où quelquefois, évidemment, des contrepèteries et des jeux de mots faciles et pas toujours de très bon goût. Alors, la Séoune, puisque c'est comme ça qu'on dit en français, et vous savez, il y a un proverbe, un dicton local qui le dit, « Séouno es frezzo », la Séoune est froide. C'est une vallée, une rivière dont la vallée descend de Villesèque vers la moyenne Garonne. Vallée encaissée, des paysages très secs, très déboisés par la surpâturation et la surexploitation agricole. Un climat très contrasté, des températures très fortes l'été, avec des matinées très froides, même en plein été. Des hivers rudes qui n'empêchent pas la croissance du figuier de Barbarie en pleine terre. Du pistachier térébenthe, des asphodèles. C'est un milieu fort intéressant pour tout le monde, le randonneur, l'historien, le géographe. Et son nom pose un problème, parce que je vous le disais tout à l'heure à propos du nom de la Saône, la Séoune, Séouno a la même origine que le nom de la Saône, Suukona, la rivière qui sépare le territoire de deux tribus gauloises, c'est là qu'elle porte ce nom de Suukona, sinon on l'appelle Arar, le très plein d'eau lorsqu'elle traverse le territoire d'une tribu gauloise. Et la Saône a la même origine que le nom de la Seine, Sequana. Et alors c'est là-dessus que les linguistes sont d'accord, tout le monde le pense. Vous avez la dernière partie du mot Ona ou Ana, la rivière qui coule, et le premier terme, Sequ, qui est interprété par la plupart des linguistes comme signifiant qui sépare, la rivière qui sépare deux territoires différents. Alors effectivement, la Séoune, c'est possible si on tient compte du fait que, à partir de 1230, elle a séparé au nord la seigneurie temporelle de l'évêque de Cahors de ce qui était au sud, ce qui restait des terres des comtes de Toulouse en Quercy blanc, en pays de Montcuq. À ce moment-là, à partir de 1230, elle sépare les terres de l'évêque de Cahors de celles du comte de Toulouse auquel succédera le roi de France. Mais c'est 1230. Or, le nom est beaucoup plus ancien. La forme nous ramène au moins à l'époque gauloise, lorsque la Saône et la Seine ont pris leur nom gaulois, Séquana, Suukona. Donc, il y a une impossibilité. Alors, certains ont dit que, bon, il est vrai que peut-être, à l'époque gallo-romaine, elle aurait séparé le pays des Cadourques, des Catourques, de celui des gens de la Genée, les Nitiobrogi, comme on dit, qui ont donné leur nom à Noé, peu importe. Mais ce n'est pas si vrai que ça. Il y a un petit détail, parce que bon, on sait que le comté sénéchaussé de Quercy a épousé l'ancien pays des Cadourques de l'Antiquité, tout comme le comté d'Agenais a épousé les limites du pays des Nitiobrogues de l'Antiquité. Les Nitiobrogues, c'était les Gaulois qui occupaient l'actuelle Lot-et-Garonne. On a émis cette hypothèse. Ce n'est pas sûr et certain. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, assez curieusement, entre Belmontet et Moulin-Bessous, la Séoune sépare très exactement le diocèse de Cahors au nord, en amont, du diocèse d'Agen en aval. Mais c'est un arrangement médiéval entre les évêques de Cahors et d'Agen. Ce n'est pas plus ancien. Alors, l'autre jour, je faisais du vélo, j'aime beaucoup ça. J'étais au débouché du vallon de Mourgues, sur le Pontet, sur la Séoune, à hauteur de l'oratoire Massabi. Pour les gens du pays, on connaît. C'est après le cimetière de la Sbouille, en allant vers Mourgues. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue. Mais je dis, mais c'est vrai, la Séoune, ça, Jean Lartigot l'a montré dans sa thèse, au Moyen-Âge, elle prenait sa source au pied de la butte de Villesec, Biloseco en occitan, c'est-à-dire le domaine sec. C'est curieux parce que la butte de Villesec est pleine de sources, pleine de puits. Donc, on s'est dit, le nom de Villesec en français, Biloseco en occitan, ne rend pas compte de la réalité géographique du lieu. C'est un nom qui recouvre un nom plus ancien avec un sens différent. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est tout simple. C'est le vieux radical qui est plus vieux que le gaulois, plus vieux que le latin, qui est donc pré-indo-européen. Le radical marqué par les deux consonnes S-K, ske, si vous voulez, et qui désigne tout ce qui est dur comme la roche, tout ce qui est haut, dur, ça désigne des hauteurs rocheuses. Ça voudrait donc dire que la Sekuona, qui est le nom ancien reconstituable de la Seuno, c'est la rivière Ona qui naît au pied d'une hauteur rocheuse. Exactement comme la Bargolone naît au pied de la montagne. Ce n'est qu'une hypothèse. Et c'est de faire du vélo qui m'a fait découvrir la chose. Alors pour ce genre de questions là, sur indo-européen et pré-indo-européen, et racines, radicaux, suffixes, préfixes, désinences et compagnie, vous avez plein de bouquins fort intéressants. Certains sont très faciles à lire, d'autres le sont moins. Ceux que ça intéresse n'ont qu'à me contacter, je leur donnerai la bibliographie. Alors, après avoir liquidé le cas Séoune, je dois revenir maintenant un peu au cas Barguelonne et autour de Prégnac, Bagat, etc. Parce que là, on a un sujet intéressant qui nous fait comprendre ce qu'a pu être peut-être dans l'esprit des gens du pays il y a bien longtemps, les fonctions de la Barguelonne. Alors, il faut savoir une chose, que Prégnac est un très vieux terme dont la forme actuelle est en occitan local, et ça c'est les gens du pays de Prégnac, c'est la famille d'Alot de Prégnac qui me l'a dit. On ne dit pas Prégnac, on dit Pragnac, avec un accent tonique sur Pra. Il se trouve qu'aux archives départementales à Cahors, dans les actes notariés, j'ai découvert les différentes formes du nom depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIIe. C'est une étymologie, c'est un mot dont la forme épouse l'évolution du radical celtique dont il est dérivé, tout au long des âges. Alors le radical celtique, le plus ancien, c'est prin, qui devient pren, puis finalement pran. Et ça désigne quoi? Eh bien ça désigne tout simplement, alors prégnac, il faut quand même l'exécuter, prégnacum, pragnacum, acum, ça veut dire le domaine de, le lieu de, des pran. Alors qu'est-ce que c'est que des pran? Alors c'est intéressant, parce que ça, vous le trouvez reproduit dans toutes les sculptures qui ornent les églises et certaines demeures du Quercy vers 1500 de notre ère. Alors un pren ou un pran, qu'est-ce que c'est? Vous le trouvez dans l'église de Bagat, les arcatures sculptées des chapelles latérales. Vous le trouvez sur la façade de la maison de Roaldès à Cahors, qui leur vient par un mariage vers 1630 avec une Élisabeth d'Ablan de la Bouisse. Alors la Bouisse, c'est tout à côté de Prégnac. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pran? C'est un bâton écoté. C'est une branche, chez les Gaulois. D'abord de hêtre, lorsqu'il y a des hêtres. Lorsqu'il n'y en a pas, on remplace le hêtre par autre chose. On le remplace par le frêne, notamment. Une branche écotée de frêne, dans l'espèce, puisque je vous l'ai dit, la Barguelonne, c'est la rivière des frênes. Qu'à Prégnac, toute la micro-toponymie évoque la présence de frênes. Le Rio del Fraï, c'est sa Saint-Pantaléon. Alors, à Prégnac, vous en avez la Fraïcinelle, Fraïcinus et compagnie, il n'y a que de ça, il n'y a que des frênes. Alors qu'est-ce que c'est comme un frêne? C'est une branche de frêne écotée, on a laissé les moignons des petites branches latérales, que les druides gravaient de signes, on appelle ça des ogames, qui avaient un sens, on écrivait le gaulois en différentes formes d'écriture, et ces frênes, ces pranes, on les jetait à certaines dates de l'année dans des sources qui étaient considérées comme des portes par lesquelles passaient les morts, pour revenir parmi les vivants et les vivants descendre chez les morts. Qu'est-ce que c'est que les morts chez nos ancêtres du Moyen-Âge? On les appelait, parce qu'ils étaient redoutés et redoutables, parce qu'ils faisaient peur, on les appelait la bonos armos, les bonnes âmes. À Prégnac, ça a donné Bonarmos, le lieu de bonne arme. Et bonne arme, c'est un lieu-dit, où passe un ruisseau, qui sort d'une source en amont, à la hauteur de Cuquel, entre le Cruzoul et le Pêche de Bonarme. il y a là une source captée. Mais cette source captée, au milieu des jardins, en fait, n'est que la résurgence d'une source beaucoup plus haute en amont, sur le versant du Causse. Et c'est là la véritable source de Bonarme, la source des Buenos Armos. Et cette source de Bonarme sur le versant du Causse, localement, elle passe pour redoutée et redoutable. On y entend des bruits. En fait, c'est une source vauclusienne à siphon. Et lorsque le siphon se dégage, ça fait des pets, si vous voulez. On appelle ça un griffoul. À Saint-Donnel, ça a donné le nom de la source qu'on appelle le griffoul del but. Le griffoul du pet, si vous voulez. Et cette source de Bonarme fait peur. On pense que là, il y a des manifestations étranges, surnaturelles et néfastes qui peuvent se produire. Cette source de Bonarme donne naissance à un ruisseau qui rejoint la Barguelonne, en face de la biscuiterie Gazo, au sol. Vous avez au milieu la butte de Prégnac, formée sur le radical pran, qui désigne ses bâtons et côtés, qui en gaulois désigne aussi des bois, des arbres, et plus exactement des arbres sacrés. En fait, Prégnac, ça veut dire le bois sacré. Et ce qui me le confirme, c'est qu'à l'ouest, entre Prégnac et le château d'Aumont, sur l'ancien Pêche-Lunc, au fond du vallon, vous avez une zone de prairie très, très marécageuse, imbibée d'eau, parcourue par un ruisseau, dont j'ai trouvé le nom aux archives, le Rio de la Morguière, le ruisseau de la Morguière, si vous voulez, qui débouche dans la Barguelonne, en face à la biscuiterie Gazo, dans un ancien moulin qui s'appelait le Muli de la Martinio, le moulin de la Martinio, si vous voulez, que je n'arrivais pas bien à situer, et c'est le défunt monsieur Lagnès qui m'avait demandé de venir, parce qu'il avait plein de choses à me raconter, qui m'a dit « Mundi, le Muli de la Martinio, bakune ici !» Et le moulin de Raimund, c'est le moulin de Raymond. Rendez-vous compte, ce Raymond Rey, avait vécu sous Louis XIV. Et trois siècles après encore, M. Lagnès se souvenait de Raymond. Enfin, il connaissait encore le nom de Raymond Rey. C'est là que débouche donc le Rio de la Morguière, le ruisseau de la Morguière, qui porte un nom qui, en bon gaulois, en bonne étymologie, et là, c'est scientifiquement prouvé, veut dire cours d'eau, faisant limite occidentale, c'est le cas à Prégnac, d'un lieu sacré. C'est encore plus le cas à Prégnac. Or, ce cours d'eau de la Morguière est assez curieux parce qu'il sort d'un bois au fond de la combe, tout à fait en haut. Un bois terrible et redoutable. Les chasseurs, ce qui s'y passe, si ce sont des esprits forts, comme M. Pendari, qui habite au Roc, m'ont dit « Monsieur Nardou, je n'ai pas peur d'entrer dans le bois des Cradernes. » Je dis « Et vos chiens ?»« Ah, par contre, les chiens, ils ne veulent pas y aller. »« Ah, ils ont peur. » »« Ah, et pour cause. » Parce que Cradernes, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un très vieux nom gaulois. Alors, on connaît le nom des Cradernes depuis le XIIIe siècle. C'est un très vieux nom gaulois qu'on décompose en Cratu d'Ervena. D'Ervena, c'est la chênée. D'Ervos, c'est le chêne. Mais c'est le chêne porteur de gui, c'est le chêne sacré. Et Cratu, ça veut dire qui inspire la terreur sacrée, qui est pleine de pouvoir. Ça veut bien dire donc que le lieu est redoutable. Et Prégnac a pour autre particularité d'être donc à un confluent de rivières. Chez les Gaulois, c'est encore plus sacré. Et ça rejoindrait donc, puisqu'à Prégnac, il y a plein de noms de frênes, une des fonctions anciennes de la Barguelonne, comprise en tant que rivière bordée de frênes, rivière des frênes. Ce serait en quelque sorte, comme dit Ramuse, auteur suisse connu, l'esprit qui remonte les fleuves, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui court chez les guérisseurs, plus que guérisseurs, que j'ai connus de tout le Quercy Blanc et d'ailleurs, que j'ai pu interroger. Et l'une d'entre elles, qui était de Revel, dans le Tarn, me disait « Monsieur Nardou, les esprits des morts remontent les rivières vers certaines sources qui sont des portes d'entrée au monde des morts. Et ces rivières sont des rivières sacrées. Or, la Barguelonne, rivière des frênes, frênes, arbre sacré pour les Gaulois, Prégnac, bois sacré de frênes, deux sources, Bonarme, les bonnes âmes, les trépassés, les Cradernes qui inspirent la terreur sacrée. » On aurait donc là l'interprétation à apporter au nom même de la Barguelonne. C'est pas simplement la rivière bordée de frênes, pleine d'eau soi-disant, même si elle est assez l'été. C'est en fait la rivière des trépassés. C'est la rivière que remontent les trépassés pour entrer dans le monde des morts. Et cela se retrouverait certes bon, dans certaines sculptures, notamment bon, Saint-Hilaire de Montcuq, mais il n'y a pas que ça. Dans certaines légendes locales également. Et ça confirmerait donc l'importance de la Barguelonne dans le paysage. Nos ancêtres avaient une vision du paysage qui n'est pas la même que la nôtre. Ils avaient une vision du paysage du pays qui n'est pas du tout la même. Le territoire n'avait pas le même sens que de nos jours. Ils n'avaient pas forcément les mêmes limites, les mêmes extensions dans l'espace. les mêmes centres, principaux et secondaires. Il y avait donc des rivières qui pouvaient jouer d'autres rôles. Alors, je vous ai donné tout à l'heure le nom de la Séourne, la rivière qui sépare deux territoires. On va maintenant voir le sens d'autres rivières également intéressantes par leur sacralité, la Nègrevieille, le Tartuguier et, économique, le Lendou et le Mardossou. Bien. Alors, après avoir quitté Prégnac, il aurait fallu parler de Bagat, évidemment, la Hêtrée sacrée, le Bagos gaulois, le Hêtre, Bagatum, la Hêtrée, que l'on retrouve dans le nom de Folmon, ancien Faumun, Fagus Mons, le nom des Fagi, des Hêtres latins. Nous allons aborder le cours moyen de la Barguelonne en pays de Montcuq. Saint-Donès ne nous apportera pas grand-chose, c'est dommage. Je vous ai parlé tout à l'heure du Griffoul del Buc, dans la combe de Masselle, à Saint-Donès. Et nous allons trouver au pied de Montcuq, sous le village de Montcuq, la Barguelonne, au lieu dit Saint-Jean de la Rivière, San Juan de la Ribeiro, sachant bien qu'en occitan, la Ribeiro, ce n'est pas la rivière, c'est le fond inondable de la vallée. Et au niveau de ce Saint-Jean de la Rivière, où se trouvait une chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste, fondée certainement par les Rousettes de l'Astour et de la vallée de la Séourne et par les barons de Luzèche. Au lieu dit Belloden, Belledan en français, mais je me demande s'il y a vraiment des questions du dedans qui seraient belles. Vous avez là le confluent d'un ruisseau secondaire, d'un affluent secondaire de la Barguelonne, dans celle-ci, et ce petit affluent de rive gauche, donc venant de l'est. Et le ruisseau qui m'est cher, parce que je le vois de chez moi, c'est la Nègrevieille, la Negobielio. La Negobielio, c'est celle qui noie, le verbe nega, la Bielio. Tous les lecteurs de Mistral, dans sa Mireio, dans ses Cuntes et ses Racuntes et Memoris, savent que la Bielio, c'est la terre-mère. Donc ce serait le ruisseau qui noierait la terre-mère. Ce qui paraît curieux, parce que même en très hautes eaux, il ne déborde guère. Alors, le nom pose un problème. Il y a plusieurs étymologies possibles. Certains y voient dans Nego le féminin de Nec, qui dans l'Aubrac, mais c'est un terme de géographie, qui nous vient des Vosges, c'est pour ça que j'y crois pas beaucoup. Et ils ont rencontré dans l'Aubrac des rochers pointus bordant le chemin, le GR65, le chemin de Saint-Jacques, et appelé Nec de l'Aubrac. Ils ont cru que c'était le nom local. En fait, c'est un terme employé par les géographes pour désigner des espèces de pitons volcaniques qui restent après l'érosion des volcans. Donc je me demande si Nego serait vraiment le féminin de Nec. C'est une interprétation possible dans la mesure où la Nègrevieille, qui prend sa source en amont de Montcuq, là au lieu dit l'Artigue, le Bosque, passe en dessous de Cuquel, sous le cimetière actuel du Faubourg, par un lieu dit qui s'appelle le Lupun de la Caire. La Caire, c'est la grosse roche. Et là, un petit ruisseau vient de lieux que maintenant vous devez connaître, les lieux terribles et redoutables, les lieux de manifestation du cavalier noir sur sa mule noire, du cavalier sombre, au Touron de Montcuq, le soir de la Saint-Martin, lorsque le soleil se couche. Il y a là un ruisseau qui descend du Touron et du Roc de Faïde et qui rejoint la Barguelonne. Et ce ruisseau porte un nom très curieux. Dans les actes anciens, il s'appelle lui aussi Loup Tartuguier, le Tartuguier. J'ai dit, tiens, un second Tartuguier. Dans mes recherches ultérieures, j'ai trouvé un troisième Tartuguier dans le vallon, la Combe Peyrouse, la Combe Pierreuse, entre Chary à l'ouest et Gounou à l'est. Un autre Tartuguier. Je me suis dit, tiens, curieux. Ça nous amène par là à nous intéresser au ruisseau qui prend sa source à Escaïrac, dans un site mélusinien, une grotte en pied de falaise, sous le pêche d'Alzuno ou d'Auzuno, le pêche d'Ozone, et sous le pêche du château d'Escaïrac. Il y a une falaise, une grotte, où prend sa source le Tartuguier. Cette grotte, où prend sa source le Tartuguier, se prolongerait mythiquement jusque sous le cœur de l'église d'Escaïrac, où se trouvent des sculptures extrêmement intéressantes qui entretiendraient, enrichiraient la mythologie du Tartuguier. Et ce Tartuguier descend par Saint-Géniès, Rouillac, et rejoint la Barguelonne, la petite Barguelonne, celle de Montcuq, dans la commune de Sainte-Juliette, au lieu-dit Lumuli de Amaschetto, le moulin de la petite sorcière. Alors, le tartuguier a une étymologie facile à rétablir. En occitan, la tartugo, c'est la tortue. Ça pourrait être un ruisseau où il y avait des tortues d'eau douce. On en connaît encore de nos jours. Dans les bras vifs, mais un peu entretenus, de la Garonne, en Bordelais, il y a là, la Garonne se divise en multiples bras. Il y a des bras très marécageux où il y a des tortues d'eau douce. Donc, il se pourrait que le tartuguier de Rouillac et Saint-Géniès et Sainte-Juliette ait été un ruisseau plein de tortues d'eau douce. Vous pensez bien que mythologue attiré par tout ce qui est mystérieux, je ne peux pas accepter cette étymologie, j'en ai trouvé une autre. C'est simple, l'occitan tartugo vient d'un mot latin tardif, tartaruca. Tartaruca, c'est la bête du Tartare. Le Tartare, c'est le fleuve des morts, du monde des morts. C'est le fleuve qui entoure le monde des morts et qui empêche les vivants d'entrer chez les morts et les morts de revenir chez les vivants. Alors le tartuguier serait donc le ruisseau de la bête du Tartare, de la bête des enfers. Et sa source serait une porte d'entrée dans le monde des morts, sous Escaïrac. Ce serait donc également, puisque nous avons un petit tartuguier à Montcuq, la fonction du Touron. Le Touron, et alors là ça rejoindrait la mythologie du dieu du Touron, et qui en fait un site, un lieu de rite d'initiation chamanique. Je tiens ça de Dominique Pauvert, professeur agrégé et docteur en histoire. Donc, il m'a interprété le mythe, ce qui me posait des questions. Et le Touron, ça colle très bien, ça ferait donc du tartuguier, de ce qui s'appelle le tartuguier, des ruisseaux dont la source est une porte d'entrée dans le monde des morts. Ça confirmerait la curieuse impression et atmosphère inquiétante qui règne dans la Combe au Pays Rouge, entre le château de Chary et le lieu dit de Gounou. Alors, quand vous venez de Montcuq, vous prenez le chemin dit de la Bella, pour les gens qui ne connaissent pas mieux, ou le chemin de Roubellette, le GR65. Et arrivé sur l'Écosse, vous croisez un chemin qui s'appelait le Camino de la Serra, le chemin de la serre. La serre, c'est la ligne de crête, tout simplement. Et en face de vous, un chemin descend, et il descend dans une combe. Le chemin a été déblayé. Et cette combe, on est là dans les lieux qui s'appellent la Plano de Daudet, la plaine de Daudet. Et on descend dans cette combe, la Combe au Pays Rouge, et règne là, lorsqu'on aborde le fond de la vallée, on entre dans une vaste buxerée, un bois de buis. Une buissière en occitan. Vaste buxerée dans laquelle règne une atmosphère d'aquarium, une atmosphère glauque. Des jeunes gens de Montcuq qui pensaient en faisant leur footing, et des gens de culture, l'un d'eux est maintenant professeur d'histoire de l'art, il dit même directeur de l'UFR, à Toulouse le Mirail, m'a dit « Monsieur Nardou, je ne peux jamais y rester longtemps ». L'ancien propriétaire du château de Chary, Monsieur Derville, c'était pareil. Mais cet endroit m'inquiète. C'est ce qu'on appelle en occitan une loque paouruc. Un lieu peureux, qui sont souvent d'anciens lieux de rites, de mythes, de traditions, de religions païennes. Et cette buissière portait le nom, au XVe siècle, chez les notaires de Montcuq, de Dunium de Buxeriae, en latin. Le Dunium, c'est très curieux, je trouve encore utiliser le mot Dunium au XVe siècle. Le Dunium, c'est un vieux mot gaulois, ça a donné le nom de James Dean, tout simplement. De Dunkerque, Dunkerque, l'église sur la dune. Ça a donné le nom de dune. Le Dunium en gaulois, c'était une hauteur sacrée, un mont sacré. Et parce qu'il était la résidence des dieux, il était inaccessible, interdit, réservé aux initiés et à des cultes et à des rites religieux druidiques. Et ce Dunium de la Bouissière, je le connais bien parce que j'y passe, c'est un véritable chaos rocheux. Et vous avez, dans ce chaos rocheux, une roche grise, vert sombre, au milieu de laquelle se détache une figure dessinée par contraste de couleurs, une figure anthropomorphe. On croirait une dame blanche, une dame du monde des morts. La dame maîtresse de la nature, de toutes les fécondités, de toutes les abondances, mais qui est aussi la reine des morts. La Déméter Hécate des Grecs, Proserpine, Perséphone. Et au pied de ce rocher et de cette forme, de cet anthropomorphe, une vasque où sort un ruisseau, qui se perd très vite dans la roche calcaire, mais qui, lorsqu'il pleut beaucoup, rejoint le tartuguier principal au moulin de Chary, la maison Ostruy, et ce ruisseau porte lui aussi le nom de tartuguier. On est donc là dans un lieu, autour de Montcuq, où, à travers l'étymologie de tartuguier, qui en fait un ruisseau des tortues, en fait aussi un ruisseau qui est en quelque sorte l'équivalent du Tartare des Grecs, le ruisseau qui entourait le monde des morts et qui en interdisait l'accès. Et la fuite des morts, et qui interdisait aux morts de revenir parmi les vivants. Ça vous donne l'idée de ce qu'a pu être, dans des âges fort anciens et dans l'esprit des populations, le pays de Montcuq, et notamment les vallées et les combes, autour même de la butte de Montcuq. Ce n'est pas pour rien si, pour des radiesthésistes magnétiseurs, la butte de Montcuq est particulièrement chargée électromagnétiquement, et notamment dans le positif. C'est le cas du rocher qui émerge au rez-de-chaussée de la tour et du cœur de l'église Saint-Hilaire. Ce serait ce qui expliquerait, mais qui serait aussi le reste, une ancienne sacralité disparue. Et au-delà du Tartudier, qui donc limite vers le sud le cœur même du pays de Montcuq, vous trouvez, soit on peut reprendre le cours de la Barguelonne, soit se déporter vers des sites beaucoup plus rassurants, mais je préfère reprendre le cours de la Barguelonne après Montcuq, lorsqu'elle descend, et que, passé le tournant de Belbarras, elle aborde le pays qui sent déjà le Lauzertin. Vous avez d'abord, à votre droite, un petit ruisseau qui descend de Sainte-Croix, qui s'appelle le Riu Trebul, qui est un affluent de la Barguelonne. Le Riu Trebul, c'est le ruisseau trouble, tumultueux, le ruisseau qui chantonne, qui chante, qui cascade. Il est intéressant parce qu'il vient de Sainte-Croix, et que Sainte-Croix n'est pas n'importe quoi dans la géographie sacrée du pays de Montcuq. Outre le principal vocable, le village de la Sainte-Croix, fêté donc le 3 mai et le 14 septembre, invention et exaltation de la croix glorieuse du Christ, Sainte-Croix est un village dont l'église romane est sous le patronage de Saint Blaise. Ce patronage est attesté, on en retrouve les traces, dans les sculptures des chapiteaux engagés de l'ancienne porte romane sud, qui figurent ces chapiteaux figurent des bœufs, des taureaux, donc des cornus. Et ce serait en référence, outre Saint Blaise, avec l'ancien patron primitif, disons, de la butte de Montcuq, dont j'ai parlé quelquefois, le Cernunnos gaulois, le dieu aux cornes de cerf, auquel a succédé Saint-Cernin d'abord, puis Saint-Blaise ensuite. On aurait déjà là quelque chose qui encadrerait vers l'ouest la sacralité du centre même du pays de Montcuq. Après, quand vous continuez, vous laissez à votre droite Le Breil, sous Caminel, je ne m'étends pas trop sur l'étymologie de Le Breil et Caminel, une ancienne église, aujourd'hui disparue, Saint-Amans de Cabremorte, Saint-Amans des Cabremortes, Saint-Amans de la Chèvre Morte. Or, peu après, à votre droite, un ravin, une ribale, un ruisseau, lui aussi c'est un autre nom, on a deux mots, riu, du latin rius, et ribal, du latin rivalis, ce qui se rapporte au ruisseau. Le rival de Guitare, un ruisseau qui descend de Guirguil, un autre qui descend de la combe de Saint-Capré. Alors Saint-Capré, Capracius, c'est le saint de la chèvre. Vous avez sous Caminel, un peu avant, Saint-Amand de la Chèvre Morte, de la Cabre Morte. On est là donc dans des lieux en rapport avec la chèvre, qui a une fonction dans la mythologie, c'est l'animal qui voit au-delà du réel manifesté. Mais c'est aussi l'animal cornu, comme Cernunnos, le dieu aux cornes de cerf, comme le taureau de Saint-Blaise, qui est un animal à cornes en forme de croissant de lune. Ceux qui se retrouvent dans le blason des seigneurs de Rouzette, après le mariage de Finamand de Rouzette avec le baron de Luzèche. On a donc là quelque chose qui, si vous voulez, rassemble tout un tas de détails de mythologie du pays de Montcuq. Peu après, vous abordez la vaste plaine qu'on appelle la Ribeiro de Santo Cilledro, la rivière, c'est-à-dire le fond de vallée inondable sous Sainte-Juliette, où le Tartuguier rejoint la petite Barguelonne au moulin de la Maschetto. La Maschetto, c'est la petite sorcière. Le moulin date de 1410. En face, dans les bois, à Saint-Capré, dans les bois qui s'étendent de Saint-Capré jusqu'à la Baratillo et jusqu'à la côte de Saint-Hippolis, vous avez une source, la source de Sainte-Rose. C'est pas Sainte-Rose de Lima. En fait, rose, c'est pas la fleur même. C'est un vieux mot qui veut dire celle qui coule, c'est la source qui coule. Elle est très difficile à atteindre en plein milieu des bois. Elle guérit toutes les maladies de peau. Or, de quoi les maladies de peau sont-elles le signe? Elles sont souvent le signe de la pratique de rites et de traditions que l'on assimile à la sorcellerie, d'où le moulin de la petite sorcière, la Maschetto, à Sainte-Juliette. Et ensuite, la Barguelonne quitte le pays de Montcuq pour aborder, à proprement parler, le Lauzertin. On est là en pays de confins, et les pays de confins sont toujours propres à l'inscription de légendes. Mais vous avez un autre ruisseau qu'il ne faut pas oublier de citer, c'est dans la vallée, tout à fait au sud du canton de Montcuq, deux ruisseaux principaux. Là, on entre vraiment dans le rassurant, le Lendou et le Mardossou. Alors, un problème, le Mardossou, de nos jours, sur la carte hygiène, vous verrez Verdanson. C'est une francisation par souci de correction de langage. Parce que le nom même que je trouve chez les actes notariés anciens, c'est Mardossou. Et Mardossou, ben, on a beau dire et beau faire, ça vient du gaulois Marda. Et Marda, c'est tout simplement la boue fangeuse, la fange puante. C'est tout simplement le mot de Cambronne à Waterloo. Donc c'est le ruisseau merdeux, faut-il dire. C'est le ruisseau puant et fangeux. Or, de nos jours, il coule très clair, des ondes très pures sur un lit rocheux. Ça voudrait donc dire que depuis l'époque de la formation du nom à époque gauloise, puisque c'est du gaulois, le climat a changé. Lorsque le mot a été formé, a été donné au lieu, il devait avoir un climat à fortes averses de saisons chaudes et orageuses qui érodaient les versants et chargeaient le ruisseau en éléments terrigènes, comme on dit, si vous voulez, en alluvion. Ce n'est plus le cas de nos jours. Ça pourrait avoir un lien avec... je vais vous en parler à propos du Lendou. Alors, le nom du Lendou lui-même, on m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. C'était pas facile à trouver du tout, mais enfin, j'ai fini par y parvenir. C'est très simple, ça veut dire le ruisseau dont l'eau est bonne à boire pour le bétail. Ça, c'est rassurant dans un sens, ça nous montre ce qu'était, puisque le mot est gaulois, ce qu'était l'économie du pays de Montcuq à l'époque gauloise, donc un pays consacré, entre autres choses, à l'élevage du bétail. Et ça rejoindrait le mythe de Saint-Jean-le-Froy, au-dessus de l'Ascabane, où la Despratoune m'avait dit ceci, que lorsque Saint-Jean-Baptiste était mythiquement passé en pays de Quercy-Blanc et avait fait d'un coup de crosse sur le rocher naître la source, la grotte et la source de Saint-Jean-le-Froid, jusque-là, le pays était frappé d'une sécheresse intense, tous les ruisseaux étaient à sec, on n'avait plus d'eau pour faire boire les bêtes. Ça veut donc dire qu'à l'époque où la légende ou le mythe, je ne dis pas s'est formé, mais a été enrichi, a pris une nouvelle forme. Parce que les mythes, c'est éternel. Ils changent de forme chaque fois qu'un locuteur ou un mythologue les reprend en main, les étudie et les travaille. Il se peut que j'ai intervenu sans le vouloir et que j'ai modifié moi-même le mythe de Saint-Jean-le-Froid et du Touron, je le pense. Et donc ça rejoindrait donc le mythe même de Saint-Jean-le-Froid. Le Lendou, ruisseau bon pour faire boire le bétail, eau potable, donc un pays voué à l'élevage. Saint-Jean-le-Froid, une source où le mythe met en scène un Saint-Jean-Baptiste rendant la fécondité et la fertilité au pays en faisant naître une source, alors qu'on n'avait plus d'eau pour faire boire le bétail. Et quand on a même du Mardossou, ça pourrait expliquer pourquoi ce nom de ruisseau fangeux, dans la mesure où il a pu servir également au tannage des cuirs et des peaux. Or, pour tanner les cuirs et les peaux, il faut des eaux courantes continues. Et les tanneries salissent, troublent, polluent beaucoup les rivières. Il se pourrait donc que le Mardossou ait dû son nom de ruisseau fangeux, mais fangeux au sens de puant, à ce qu'il a été un ruisseau de tanneur. Ça, c'est une hypothèse, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On retrouverait donc, à partir de ces noms, de la Séoune, et sa fonction de ruisseau limite, mais né au pied d'une butte rocheuse, de la Barguelonne, ruisseau, rivière bordée de frênes et chemin des âmes, chemin des trépassés. De Tartuguier, rivière qui ceinture et clôt le monde des morts. De Lendou et de Mardossou, rivière à fonction économique. On retrouverait donc là tout un aspect de l'histoire du pays de Montcuq, mais aussi de l'histoire du climat, de l'histoire des activités économiques et de l'histoire des populations. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et il y avait beaucoup plus à dire que ce que je viens de vous dire. Je répète que pour ceux qui ont envie de savoir des titres de bouquins en la matière, je les ai à leur disposition. Mon adresse internet, elle est facile, c'est francois, puisqu'il n'y a pas de C dit au C. francois.nardou, sans X à la fin, @orange.fr. Et ils auront de quoi lire, du facile, du moins facile, du difficile et du très difficile. Merci bien. Alors, à une autre fois, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 15 jours, il faut trouver un sujet, le travailler, le nourrir, et ce n'est pas toujours facile de trouver quelque chose. Donc, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez suggérer des sujets de démission. Je ne demande pas mieux, à condition évidemment que j'ai des compétences dans le domaine et le sujet en question. N'allez pas me faire parler de physique nucléaire ou de mathématiques, parce qu'alors là, j'en connais certains qui riraient bien. Enfin, pour le reste, le Moyen-Âge, l'Antiquité, là, l'Occitan, il n'y a pas de problème, on ne risque pas de se battre ni de se disputer. Merci bien, donc à une autre fois, le plus tôt possible. Au revoir.
Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins. Les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignent d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des rondes en l'eau. aujourd'hui tu ballottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition avait loin, l'ambition est inculte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime.